Pour de philosophie première, par la permis Dominique Philippe, le 13 mars 2002 à Saint-Judas.
Nous en étions à ce sixième élément de la personne, le corps. Alors, il y a des petites questions. Avec l'âge, la maladie, le corps du vivant, devient plus pesant. Mais peut-on dire avec certitude que l'âme informe moins le corps ? L'information est substantielle, donc il n'y a pas de plus et de moins. Bon. Alors, moins, c'est une façon de parler. Ce n'est pas rigoureux. Mais ce qui est juste, c'est que l'influence de l'âme domine moins le point de vue du corps de le point de vue corporel. Alors, informé au point de vue strict, non, c'est sûr. Ne s'agit-il pas, au contraire, d'une résistance du corps à l'information donnée par l'âme ? Une résistance d'un vieillissement du corps ? Au point de vue de l'effet, c'est le même. Alors, l'âme, c'est sûr, informe toujours le corps, substantiellement. Mais au point de vue de l'influence d'efficacité sur nos puissances, alors, l'âme n'a plus la même information. Alors, est-ce que c'est le vieillissement du corps qui fait ça, le corps qui résiste ? L'âme ne sollicite-t-elle pas le corps davantage quand le conditionnement est plus pesant ? L'information, comme information, est substantielle. Donc, il n'y a pas de plus et de moins. Mais l'information dans les facultés, par exemple, dans la souplesse, il est bien évident que le corps se raidit plus. Il est moins souple. Alors c'est sûr, cela provient du corps qui ne se laisse pas informer. C'est pas le vieillissement de l'âme. L'âme ne vieillit pas. Puisqu'elle est en elle-même immortelle. Donc elle ne vieillit pas. Le vieillissement vient du corps, c'est évident, vient du devenir. L'être ne vieillit pas. Or, l'être vient de l'âme. Alors, le vieillissement est un phénomène qui affecte le devenir. Le devenir propre vient du corps. Alors, en ce sens-là, on peut dire que le conditionnement est plus pesant. Il s'impose davantage. parce que le devenir s'impose davantage. Le devenir chez un petit enfant est positif, il est pour la croissance. Le devenir chez un vieillard est pour la mort. Oui. Autrement dit, le devenir a deux sens. Il a un sens de croissance lorsque l'information de l'âme est plus forte et plus grande. Alors à ce moment-là, le devenir se laisse emporter et diriger par l'âme. Donc c'est un devenir positif, c'est une croissance. La croissance n'est pas autre chose qu'un devenir positif, c'est-à-dire on va vers une, on dira dans le langage métaphorique, vers une détermination plus parfaite. C'est-à-dire virtuellement, elle s'étend. Virtuellement, elle se fait plus forte. Mais elle est substantielle à sa source. Tandis que dans le vieillissement, le point de vue du devenir l'emporte sur l'être. Et c'est en ce sens que c'est un vieillissement. Le vieillissement, c'est justement le devenir qui l'emporte, qui devient plus important, qui prend une place plus grande, si vous voulez. On pourrait dire ça. Tandis que dans le devenir de la croissance, le devenir est positif. Il tend vers l'être, vers le vieillissement, c'est négatif. Donc, la cause matérielle repend tous ses droits. Comme cause matérielle, un alourdissement, quelque chose de plus lent. Oui. Justement, la mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. Cette séparation se fait d'abord sentir périphériquement, forcément, exactement comme lorsqu'il s'agit de la détermination, elle est toujours plus grande. Elle augmente et elle vient de l'intérieur. Tandis qu'il y a le mouvement inverse de la séparation. C'est que c'est la séparation commence à se manifester à l'extérieur. Et c'est pour ça que la mort, la séparation de l'âme et du corps, ce n'est pas immédiatement, quand on dit le cœur cesse, c'est forcément, c'est très difficile à savoir, on ne peut plus le savoir là. La séparation de l'âme, tu vois, est instanti, est en dehors du temps. Le décroissement est dans le temps, mais la séparation de l'âme et du corps, elle est au-delà du temps, puisqu'elle est dans l'ordre de l'être. au dernier cours, vous avez montré la mémoire du corps comme pouvant influer sur le conditionnement de la personne. Qu'est-ce la mémoire du corps ? S'agit-il de violence subie dans le passé qui rejaillissent plus tard sous forme de blessures. Par exemple, si je me suis cassé une dent, des douleurs peuvent survenir des années après. C'est très délicat de parler de la mémoire du corps. On parle d'une mémoire que nous avons tous. Alors, il y a une mémoire spirituelle, c'est celle-là dont parle saint Augustin. Notre âme garde tout, le passé. Il est présent dans l'âme, puisque l'âme est au-dessus, elle est spirituelle. Donc le devenir est assumé par l'âme. Alors, il y a une mémoire qui garde. Il y a une mémoire qui garde le passé et qui implique un organe corporel. Et cet organe corporel s'use. C'est pour ça que la mémoire, en vieillissant, elle tend à disparaître. Les événements extérieurs s'inscrivent moins profondément dans le corps. C'est sûr. Il faut des événements très particuliers pour qu'ils s'inscrivent encore avec autant de force. Alors que dans un enfant, certains événements peuvent durer toute sa vie, rester comme profondément accrochés. Alors, est-ce que le corps, comme corps, peut avoir une mémoire ? Le corps informé par l'âme, c'est un corps vivant. Alors, le corps vivant, en tant qu'il vit, il y a une immanence, l'immanence du vivant. Le vivant garde les événements qui viennent le marquer, il les garde. C'est ça l'immanence de la vie. Alors, est-ce que l'immanence de la vie est mémoire du vivant ? Au sens strict, formel, non. Mais on peut dire que les événements qui nous ont marqués, qui viennent de l'extérieur et qui nous ont marqués par où on pâtit, en tant qu'ils sont imprimés dans notre corps vivant, c'est d'une certaine manière la mémoire du corps. C'est-à-dire, c'est l'aspect de l'immanence du vivant qui est comme un élément de la mémoire. Le corps vivant garde plus que le corps purement matériel. Le corps purement matériel n'est pas vivant, il n'a pas d'immanence. Il est entièrement dans le devenir. Parce qu'il est entièrement dans le devenir, il n'y a pas de mémoire du tout. Le devenir fait que le passé disparaît. Il n'est plus avec l'événement nouveau. C'est le propre du devenir. Le devenir est en opposition avec la mémoire. Les événements successifs font qu'on est tout le temps dans quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau chasse le passé. C'est le propre du devenir. Mais le vivant a une immanence. Et ça, c'est le propre de la vie. C'est pas le propre de la connaissance, c'est le propre de la vie. Alors, le corps du vivant, le corps de l'homme est vivant. En tant que vivant, il garde les événements. Donc, c'est l'immanence du vivant. Alors que dans le langage courant, nous disions la mémoire du corps, au fond, c'est son immanence. Qu'est-ce que c'est que cette immanence ? C'est quelque chose de différent du pur devenir et quelque chose du différent de la mémoire proprement dite. Oui. C'est un intermédiaire du vivant. Le propre du vivant, c'est de garder la vie, attire vers elle. Toujours. Il y a un mouvement centrifuge qui est propre du vivant. Le vivant assimile et il assimile tout pour lui. Il y a un égocentrisme très puissant du vivant, de vie végétative. Hein. Très fort, il garde pour lui. Et donc, quand il subit une violence, c'est-à-dire que l'extérieur est plus fort que l'intérieur, parce qu'autrement il se défend, un grand vivant se défend, et d'une certaine manière, un grand vivant n'a pas de mémoire, il est toujours dans quelque chose de nouveau. La mémoire, c'est donc l'aspect immanence du vivant qui, en tant que vivant, demande le s'émovere. Donc, c'est juste l'inverse. Le se mouvoir, c'est aller au-devant. Et aller au-devant, ce n'est pas garder le passé. Mais ce vivant corporel n'est pas purement vivant, donc il n'est pas uniquement celui qui va en avant, celui qui quitte le passé pour aller en avant. Le passé, lorsqu'il a été très violent, c'est-à-dire qu'il a marqué profondément matériellement, corporellement, le vivant garde la trace, les conséquences, de cette violence. Cette violence le marque et l'empêche, par le fait même, tu sais, Mauverre, d'aller au-devant, en tant que vivant, il va devant, il marche en avant, mais en tant qu'il a un corps, il y a la trace du passé. Alors, on peut dire que cette trace du passé, c'est la mémoire du corps, opposée à cet élan du vivant, qui est toujours un dépassement. Un grand vivant dépasse toujours les luttes. Il se sert des luttes pour aller plus. Mais quand vous voulez faire que le cheval se mette à bondir, vous le piquez. Et le piquer, c'est violent. Et la réaction est vivante. Il se fait à bondir. Et si vous le piquez trop, vous n'êtes plus maître de lui. Il devient très très violent. Et c'est la même chose pour entre nous. Des petites morsures violentes, des petits mots méchants qui piquent. Alors, où l'homme bâtit sans réaction, visible à l'extérieur, où il bâtit, ça le réveille et il devient violent. Donc, la violence, c'est très souvent une réaction. Et ce n'est pas, c'est pour ne pas garder en soi cela. C'est se libérer de ça. Donc la violence peut être très forte, un signe de faiblesse. Ne me violentez pas. Je suis trop faible. Je n'arrive plus à pouvoir assumer ça. Vous voyez, ce double langage du corps, c'est très particulier. Il garde parce qu'il ne peut pas réagir davantage. Alors il garde. S'il réagissait davantage pour pousser, il renverrait. Alors, quand le corps est très faible, comme chez le petit enfant, l'embryon, il garde plus que lorsqu'il est le corps d'un grand vivant. C'est très curieux, cette chose-là. Alors, la mémoire du corps, c'est justement les choses de l'enfance, être même embryonnaires, qui vous ont marqué et que vous aviez complètement oublié dans la force de l'âge, et qui, lorsque la vieillesse ou la maladie arrive, tout ça rebondit. Alors, c'est en sens ça qu'on dit mémoire du corps. En réalité, c'est parce que le corps a pâti, il a subi, et qui reste la marque de ça. Et que cette marque violente sur le corps va prendre une nouvelle signification. Ça n'a plus la même signification que quand vous l'avez reçu. Mais ça provient de ce temps-là. C'est pour ça que c'est très délicat de parler en mémoire du corps. Il faut savoir ce que ça veut dire. Vous voyez ? parce que justement la mémoire exprime l'immanence du vivant. La mémoire du corps, c'est une espèce de contradiction. Le corps n'a pas d'immanence, il est dans le devenir. Mais à cause de l'âme, le corps du vivant a une immanence en tant que vivant. Et en tant que vivant, il garde. C'est plus garder que mémoire. Parce que je crois, ça c'est très difficile à préciser, je crois que quand une blessure revient, que le corps a gardé cette blessure, que quand la blessure revient, elle revient longtemps après, elle se manifeste longtemps après, donc elle entre dans elle entre dans la conscience avec une nouvelle signification. Et c'est en ce sens-là que ce n'est pas mémoire. Puisqu'il y a une nouvelle signification. La mémoire, ce serait d'avoir gardé cette signification première. Alors là, il y aurait vraiment mémoire. Mais je crois que cette blessure ancienne, dont on ne parlait plus, qui revient subitement, alors on parlera de mémoire du corps, et elle revient subitement dans ma conscience. Alors, la marque est bien ancienne, mais la signification de cette marque, je crois, a un sens nouveau. Parce que le corps a grandi. Donc, c'est juste de dire que c'est en quelque sorte quelque chose d'ancien qui revient, mais qui revient dans la conscience avec une nouvelle signification. Et donc, à ce point de vue-là, c'est pas la mémoire. La mémoire, c'est quand vous repensez à quelque chose de passé, mais vous le repensez avec la même signification. Autrement, ce n'est pas la mémoire. C'est quelque chose de nouveau. Alors, c'est là où serait très intéressant à préciser si, au fond, il n'y a que l'aspect matériel qui demeure, et cet aspect matériel d'une violence qui a existé, elle réapparaît et elle est vécue avec une nouvelle signification. Mais matériellement, c'est vrai, c'est la blessure. C'est la blessure qui a eu lieu. Et elle renaît avec une... Parce que vous avez grandi. Ayant grandi, ou au contraire, parce que vous avez vieilli. Ayant grandi, votre véritable mémoire a changé. Les événements ont changé. Le cadre a changé. Et donc, ça prend une nouvelle signification. Donc, il y aura à ce moment-là, vraiment, si la signification est changée, ce n'est plus la mémoire. Mais le coup a été l'occasion d'une nouvelle réaction vitale. Vous voyez ? Je crois, hein, c'est difficile à préciser, mais c'est important, puisqu'aujourd'hui on parle beaucoup de la mémoire du corps. Alors qu'est-ce qu'on veut dire ? Est-ce que c'est métaphorique ? C'est pas entièrement métaphorique. c'est matériellement mémoire. C'est pas formellement mémoire. Il me semble. Bon. Autrement dit, on pourrait dire que pour le vivant, toute violence, tout aspect extérieur qui domine, c'est ça la violence. Alors que le vivant est sémovéré, il se meut. Et s'il ne peut pas se mouvoir comme vivant, à cause de la violence, il voit qu'il y a un obstacle qui l'arrête. Donc, c'est le vivant qui, à ce moment-là, crie. Parce que il est vivant. Il veut se mouvoir. Ça, on voit très fort chez un enfant. Hein. C'est très net. Non, tout petit voyage que j'ai fait de là, en avion près de la Roumanie, j'avais à côté de moi un père vigoureux qui portait un gosse de sans doute 2 ans. Ce gosse, avec le voyage long, c'est vrai, c'est un gosse resté sage pendant 3 heures, ayant comme seul terrain d'atterrissage les genoux de son père. C'est pas commode. Hein. Et je suis à côté de lui, et forcément, je ne pouvais absolument pas lire quelque chose. Ce gosse bougeait trop. Il était très vivant. Il s'est mauvais. Et c'était extraordinaire de voir que, petit à petit, rester toujours à la même place, le père le maintenant dans la même place pour qu'il ne fasse pas trop de chahut. L'autre moitié du vin, ça a été catastrophique, ça a été les pleurs. Donc, pourquoi? Parce qu'il ne peut pas se mouvoir. Le sémovéré était vaincu. Forcément, il est obligé de... Il ne pensait pas qu'il était lié à un petit territoire particulier. Il s'est mis à pleurer. Et le père essayait d'arrêter ses pleurs. Bon, pour qu'il ne fasse pas trop de chahut. Parce que quand il pleurait, il criait très fort. Alors on n'entendait plus que lui. Là, je comprends très bien que le père c'était gênant pour lui. Alors ici il était. Et alors il met une main sur sa bouche, le pauvre gosse, criant encore plus fort. Parce que c'était violent, ça arrêtait. Et c'est très curieux de voir ces choses-là. Quand on les regarde en essayant de comprendre le sémovéré du petit vivant d'un gosse de 2 ans, un petit garçon vivant, très vivant, mais c'est pas intelligent, c'est instinctif. Alors, instinctif, le sémovéré apparaît pleinement. Il a besoin de remuer. Pour le laisser courir dans l'avion, alors là, il aurait été tranquille. Parce que pendant un certain temps, le père est arrivé à l'amuser. Mais amuser pendant 3 heures un gosse qu'on porte sur ses genoux, c'est pas commode. Hein. Alors il y a eu nettement la phase de la joie et la douleur. Alors, vous voyez, l'arrêt du sémovéré. C'est très, très cru. Alors, qu'est-ce qui est gardé dans les mémoires? Qu'est-ce qui demeure dans les mémoires? Parce que si on est trop attentif, on n'arriverait jamais à corriger un gosse en disant « Ah, il va garder ça pour lui. » Alors, il faut bien l'arrêter, il faut bien l'éduquer. Bon. Nous portons en nous, par notre corps, le devenir. Et nous avons donc en nous la philosophie de l'être et de devenir. C'est la très grande richesse que nous avons. Alors, ce qui est extrêmement curieux, et je crois qu'on doit, on doit en être très conscient de cela. Notre civilisation est une civilisation du devenir, beaucoup plus que de l'être, parce que la finalité disparaît. Dans l'éducation populaire, dans l'éducation de la nation, le devenir, la finalité a complètement disparu. On ne regarde plus que le conditionnement. Et on éduque entièrement en fonction du conditionnement, c'est-à-dire supprimer les conflits. Le grand désir, c'est de supprimer les conflits, d'en supprimer les luttes, les conflits qui sont dans le devenir, qui sont dans le conditionnement. Si j'étais seul au monde, je pourrais très bien supprimer tous mes conditionnements. Mais j'ai à côté de moi quelqu'un qui veut aussi supprimer ses conditionnements. Et donc, à ce point de vue-là, rester au niveau du conditionnement comme on le fait, c'est nécessairement engendrer d'autres luttes. On va supprimer certaines luttes qui vont faire naître d'autres luttes. Et cela explique comment cette civilisation évolue très vite. Extraordinaire de voir la rapidité avec les choses. Alors que quand il y avait le point de vue de la finalité et que c'était la finalité qui dominait, c'est-à-dire l'éducation, l'éducation dans un sens profond, parce qu'il n'y a pas d'éducation au niveau du conditionnement. Vous ne pouvez pas dire que vous éduquez quelqu'un par le conditionnement. Vous essayez tout simplement de supprimer les conflits. La suppression des conflits, très bien, mais quoi derrière? Rien. Suppression des conflits. La grande astuce, au point de vue psychologique, si on était uniquement dirigé par le point de vue psychologique, suppression des conflits. C'est quelque chose de positif, mais c'est à l'intérieur des conflits la suppression des conflits, vous comprenez? Ce n'est pas quelque chose qui dépasse le devenir. Pour avoir quelque chose qui dépasse le devenir, c'est le point de vue de la finalité. Seule la finalité permet l'éducation. La suppression des conflits n'est pas une éducation. C'est pour permettre une éducation. Mais pour permettre une éducation, il faut une finalité. Et la finalité de l'homme, qu'est-ce qu'elle peut être? C'est simple. Il y en a deux. Vous n'avez pas 36 finalités. Vous avez la finalité de votre intelligence, c'est d'aller le plus loin possible dans la recherche de la vérité. qui est la finalité du cœur, l'amitié. Vous avez la contemplation et l'amitié, les deux fins humaines. Or, quand cela n'existe pas, vous êtes donc en face d'une espèce de recherche de nivellement. Mais le nivellement est ennuyeux. On s'ennuie dans le nivellement. Supprimer toutes les têtes qui dépassent. Supprimer tout ce qu'il peut y avoir un petit peu d'original, de dépassement de ce simple fait qu'il n'y ait plus de conflit. Alors, on cherche des choses extrinsèques, des fêtes, des rencontres, des voyages. Le monde n'a jamais autant voyagé. Or, le voyage, c'est à l'intérieur du mouvement un autre mouvement. Tu vois ? Le mouvement habituel qui devient ennuyeux. On va inventer un nouveau mouvement qui va... Mais c'est quelque chose qui n'est pas éducatif au sens rigoureux, puisque je ne peux pas être éduqué par le mouvement, par le changement. C'est simplement un changement. Ce n'est pas la finalité qui apparaît. Je crois qu'on doit regarder ça très nettement. Le conditionnement ne sera assumé par la personne que dans la mesure où, au-delà du devenir que je reconnais dans mon corps, je découvre la finalité. Mon corps ne me donne pas la finalité. Il est toujours dans le conditionnement. Mais mon corps demande d'être dépassé pour saisir la finalité de mon intelligence, qui est l'amitié et la contemplation. Il n'y a pas de finalité mathématique. Un monde qui se mathématise ou qui ne respecte que les mathématiques, que la science, est un monde qui supprime la finalité. Donc, c'est un monde qui se perd. Quand je dis que mon corps conditionne ma vie, que le corps est condition substantielle de ma personne, c'est justement de considérer que ce conditionnement du corps est finalisé, donc dépassé. À l'intérieur du conditionnement, il n'y a pas de personne. La personne, c'est le dépassement du conditionnement. Donc, on pourrait dire que la personne, c'est justement de voir où il y a dépassement de mon conditionnement. Mon corps, je ne veux pas le supprimer. Je ne peux pas le supprimer. Je ne veux pas le supprimer. Mais je veux voir comment ce conditionnement peut être dépassé. Demeurer dans mon conditionnement, ce n'est pas un conditionnement personnel. Donc, ce n'est pas un conditionnement humain. la personne doit humaniser le corps, humaniser ce conditionnement, c'est-à-dire le dépasser. Je respecte ce conditionnement, mais je le dépasse tout le temps. Et je m'habitue à le dépasser toujours. Il n'y a pas de finalité dans le conditionnement. Le conditionnement demeure un conditionnement sans finalité. Le devenir, pour le devenir, il n'y a pas de fin. Oui, c'est l'âme qui informe le corps. Et en informant le corps, elle demande au corps d'être dépassé. Quand vous cherchez une finalité pour le corps, vous tombez dans le point de vue sportif. Le sport, c'est un jeu. Ah, ça, c'est très important de voir que le conditionnement pour le conditionnement va réclamer le jeu. Le jeu n'est pas une finalité personnelle. Le jeu est une détente. Le jeu, au plan philosophique, c'est une détente. C'est une détente dans le conditionnement. Donc ça peut être très important, parce que le conditionnement me fatigue. Il a besoin de permettre le dépassement. Quand le conditionnement est trop lourd, je n'arrive plus au dépassement. Je n'arrive plus donc à découvrir ma finalité. Et constamment, c'est ce qui se passe. Le conditionnement devient quelquefois tellement important dans les études, les examens, les concours. Il n'y a rien de plus fatigant qu'un conditionnement qui est à base de concours. Et il n'y a rien de moins éducatif que ça. Or, quand un monde fait que tout est conditionné par le concours, c'est un monde où le conditionnement devient de plus en plus important. Et donc, cela éveille des révoltes, des oppositions violentes. C'est ce qui se passe. Il n'y a pas de paix dans le conditionnement. La paix ne peut être que dans la finalité. Et vous essayez de saisir ces choses-là profondément. Et quand il n'y a plus de détente dans le conditionnement, c'est-à-dire le sport, mais limité au conditionnement. Quand vous faites du sport une finalité, vous détruisez la personne, c'est bien évident. Parce que vous voulez trouver votre finalité dans votre conditionnement, donc vous détruisez la personne. Il faut que la finalité dépasse le conditionnement. Le jeu, donc, met une certaine détente dans le conditionnement. C'est très bien, cette détente, mais elle ne finalise pas. Mettre votre finalité dans la détente, c'est désastreux. Ce serait vouloir mettre la finalité dans la détente. Faites toutes les applications. Dès qu'il y a une vie commune, la vie commune, c'est le conditionnement. Alors quand vous mettez votre finalité dans la vie commune, vous voulez que la vie commune soit de plus en plus intense, mais elle ne vous donne pas la finalité. Et vous mettez les détentes dans la vie commune. très bien. Mais ne cherchez pas votre finalité dans la vie commune. La vie commune provient de notre conditionnement. Ça, c'est sûr. C'est parce que nous sommes terriblement conditionnés et de plus en plus conditionnés que la vie commune est de plus en plus nécessaire. La vie commune est une certaine finalité du conditionnement. Et une certaine finalité. Alors, au point de vue divin, au point de vue chrétien, c'est autre chose. La vie commune permettra le développement de la charité fraternelle. Par la charité fraternelle, on rejoint l'amitié, et donc la finalité. Mais, au point de vue humain, la vie commune, c'est le propre de la considération de la politique. Et la vie commune ne peut rester humaine que lorsqu'elle est dépassée. Parce que la finalité de la vie commune demeure une finalité commune de l'individu et pas de la personne. C'est à cause de mon corps que j'ai une vie commune. Donc, mon conditionnement est très lourd. Je demande à mon voisin de m'aider. Donc, il y a une entraide. La vie commune permet cette entraide. Mais cette entraide ne supprime pas la vie commune. Au contraire, elle se fait à l'intérieur des vies communes. Donc, je ne dépasse pas la vie commune par l'entraide. Alors, il y aura les deux. Il y aura la détente et l'entraide qui permettent que la vie commune reste humaine et permettent la découverte de la finalité personnelle. Ceci... philosophiquement, est très important de voir très clair. Tant que vous mettez votre finalité dans la vie commune, vous ne pouvez pas être une personne. Parce que la vie commune ne vous donne pas votre finalité propre. Il n'y a pas d'absolu dans la vie commune. Au fond, le communisme, c'est mettre l'absolu dans la vie commune. Le communisme veut mettre l'absolu dans la vie commune. Vous n'avez pas le droit de chercher autre chose que la vie commune. Et c'est dans la vie commune que vous trouvez, que vous devez trouver votre bonheur. Alors ça, c'est vouloir trouver dans mon conditionnement ma finalité. Donc, fatalement, ça échoue. Ça échoue parce qu'au bout d'un certain temps, ça exaspère les gens. Mettre votre finalité dans la vie commune, c'est exaspérant. Parce que il y a toujours l'autre qui m'empêche. C'est exaspérant et donc ça finit par le meurtre. Forcément. Oui. C'est très important de voir les limites du conditionnement pour passer à la finalité. Et quand je dis que le corps est un conditionnement substantiel, je ne veux pas dire que ce conditionnement, s'il est substantiel, est final. Non, ce n'est pas un conditionnement qui finalise. Il est substantiel parce que ce conditionnement est indispensable à l'homme. L'homme ne peut pas se passer de ce conditionnement. il est lié substantiellement à son corps. L'être, pour l'être humain, est substantiellement lié au devenir. Et donc, tant que je suis jeune, je progresse. Tant que je vieillis, il faut que mon vieillissement reste humain. Mais je ne peux pas le supprimer. Mon conditionnement n'est pas éternel, et mon corps n'est pas éternel.